Chapitre 13 Vol ou vengeance. À ce moment, Désiré reparut, annonçant que M. Maurice semblait d'arriver. « Ah, faites entrer !» dirent les magistrats. M. Morrison, un vieillard aux cheveux blancs, parut voûté, pleurant, semblant accablé par une profonde douleur. Deux agents en civil l'encadraient. Il s'appuyait au bras de l'un d'eux et vint douloureusement s'asseoir sur la chaise qu'occupait tout à l'heure Désiré. « Excusez-nous, monsieur Morrison, lui dit le juge d'instruction, de vous avoir fait venir, mais le devoir de la justice nous impose parfois des exigences pénibles. Messieurs, je suis à votre disposition. Je vous demande pardon même de ne pas m'être trouvé ici à vos ordres. Mais le malheur n'a pas seulement frappé aujourd'hui dans la maison du maître. Il est entré chez le serviteur. Chez vous ? Oui, messieurs. Un nouveau crime ? Un crime, non, mais un malheur qui nous abat, ma pauvre femme et moi, comme un deuil. Et le vieillard sanglotait. J'avais une fille, messieurs, reprit-il, qui était ma joie, mon orgueil, l'espoir de mes dernières années. Je ne l'ai plus. Comme je rentrais après le drame qui s'est déroulé ici pour rassurer ma femme que j'avais fait prévenir, bon, il était tard, près de minuit. Ma femme était doublement inquiète. Notre fille Blanche, si sérieuse, si exacte, partie depuis le matin, n'était pas rentrée encore. Toutes les pensées tragiques qui, dans ces cas, surviennent chez les parents, nous assaillirent. Tous les dangers qu'une jeune fille peut courir dans Paris nous vinrent en mémoire. Nous pensâmes que le malheur allait être double et que nous ne retrouverions plus notre Blanche que morte. Alors j'ai couru chez tous nos amis, espérant qu'on aurait chez l'un d'eux peut-être retenu Blanche. Personne ne l'avait vue. J'ai été chez ses élèves, on ne l'avait pas vue non plus. Et j'ai dû me rendre chez le commissaire de mon quartier, puis à la préfecture de police. J'ai fait les hôpitaux, et je reviens accablé, exténué, mourant de fatigue. Je suis passé à la maison, espérant que Blanche avait pu rentrer pendant que je la cherchais ailleurs. Ma femme ne s'était pas couchée. Elle me tendit une lettre venue par le courrier du matin. « Ah, mon pauvre ami, me dit-elle, voilà la raison de l'absence de Blanche. » J'ai d'abord poussé un cri de joie, une lettre de Blanche, donc elle n'était pas morte, comme je le redoutais. Mais aussitôt la douleur m'étreignit à nouveau. Dans cette lettre, ma fille, que je croyais si honnête, si loyale, si pure, ma Blanche, nous disait qu'elle allait être mère et qu'elle partait avec celui qu'elle aimait. Tous deux allaient refaire leur vie, gagner le pardon de leurs fautes et racheter le chagrin qu'ils nous causaient. Comprenez ma douleur, messieurs, quel coup j'ai ressenti, ce double malheur, cette tragique coïncidence. Ma pauvre femme est tombée sans connaissance. Je la soignais, elle reprenait à peine ses sens, quand ces messieurs sont venus me quérir en votre nom. » Le vieillard épongeait ses yeux rougis et s'efforçait à calmer ses sanglots. « Nous prenons, monsieur Morrison, lui dit monsieur de Capestin, la plus grande part à votre douleur. Aucun mot ne peut en ce moment l'apaiser. La double plaie est trop fraîche, trop cruelle. Cependant, nous nous devons à la justice, et nous avons en vous un auxiliaire précieux dont le concours est indispensable. Vous êtes un homme de conscience et de devoir. Vous nous comprenez. Monsieur, je suis à vos ordres. Je vous prie seulement de m'excuser si je pleure ainsi et si parfois mes sanglots, plus forts que ma volonté, m'empêchent de vous répondre tout de suite. D'ailleurs, monsieur Morrison, nous ne vous retiendrons pas longtemps. Nous voulons vous demander si vos soupçons ne se portent sur personne. Vous, qui étiez au courant de tous les secrets, de toutes les amitiés, et aussi de toutes les jalousies et les haines, car un homme comme M. Castanier devait certainement, avec ses nombreux amis, compter quelques ennemis. Vous qui connaissiez toute la vie publique et privée de M. Castanier, ne voyez-vous personne qui ait eu une raison de commettre cet assassinat? Besoin d'argent, demande de fonds refusée, vengeance, que sais-je? Ne pressentez-vous pas qui pourrait être l'assassin de M. Castanier? Le vieillard secoua la tête. Évidemment, messieurs, on n'arrive pas à la haute situation de M. Castanier sans susciter la jalousie, sans se créer des ennemis. Comme tous ceux qui s'élèvent, M. Castanier en avait. Mais parmi eux, je ne vois personne qui ait pu pousser la haine au point de commettre cet assassinat odieux. Et en rappelant bien vos souvenirs, cependant, M. Morrison hésita, puis répondit. Même en me rappelant mes souvenirs, je ne puis vous désigner personne. Même en remontant tout à fait dans le passé de M. Castanier, le caissier, à ces mots, leva la tête et regarda M. de Capestin avec étonnement. Que voulez-vous dire par là? Demanda-t-il. Non, je vous pose une question. Et, se rappelant les termes de la singulière lettre trouvée dans le panier à papier, le juge d'instruction reprit. Oui, je vous demande si autrefois, il y a plusieurs années, au commencement, par exemple, de l'établissement de sa fortune, M. Castanier n'aurait pas fait une opération, un coup de bourse, réussi une affaire, enfin, que quelqu'un, probablement lésé, aurait regardé comme un crime et dont, malgré le temps, il serait venu demander compte au banquier. Le vieillard regarda tour à tour M. de Capestin et le chef de la sûreté avec une anxiété, cherchant sans doute à deviner pourquoi on lui posait cette question et ce qui la faisait énoncer. Puis, après quelques longues secondes d'hésitation, il répondit « Non, pas depuis que je suis dans la maison. Pas depuis que la banque est fondée. Non, messieurs, il n'y a rien de tel à ma connaissance. D'ailleurs, nos livres sont là, on peut les consulter. Chercher, mais ce serait peine inutile. Je ne vois pas, moi qui connaissais tous ceux qui ont eu affaire à M. Castanier, le misérable pouvant lui en vouloir au point de l'assassiner. » Il y eut un silence. Quand M. Morrison hésitait à répondre, pendant qu'il faisait cette réponse où perçait malgré tout un certain air de faux-fuyant, je vis Martin Humard se départir de son indifférence apparente et entourer le caissier de son regard scrutateur. Au bout d'un certain temps, M. de Capestin dit à M. Morrison « Donc, si ce meurtre ne peut être, selon vous, imputé à la vengeance, son mobile est par conséquent le vol. Oh, je l'ignore encore. Nous allons le savoir. Vous êtes au courant, sans doute, de ce que contenait le coffre-fort de M. Castanier. Parfaitement. C'est dans ce coffre, plus sûr que ceux du bureau, que je déposais chaque soir les fonds, les derniers encaissements que nous n'avions pas à mettre en dépôt dans une grande banque. M. Castanier y détenait ses valeurs diverses. J'ai une clé du coffre et le mot de la serrure. Bien, pouvez-vous venir avec nous dans le bureau de M. Castanier, ouvrir le coffre et nous dire s'il y manque quelque chose? Je l'espère. Allons, messieurs, allons. Péniblement, le caissier se leva de sa chaise et se dirigea vers le bureau du banquier. « Monsieur de Capestin, le chef de la sûreté, Martin Dumas, les secrétaires et moi, nous suivîmes. » Passant près du fauteuil de Monsieur Castagnier, le vieillard eut un geste de compassion. « Pauvre ami, dit-il, pendant combien d'années l'ai-je vu là ?» Puis, tout en cherchant dans sa poche le trousseau de clés, il dit « J'ai dans mon livre de caisse l'état de ce que contient ce coffre, la nomenclature des valeurs et le compte de l'argent. Quand M. Castagnier en prenait pour son compte, il laissait sur un rayon un reçu qui me renseignait et faisait foi pour ma feuille de caisse du lendemain. Nous avons fait hier une rentrée assez importante, un peu tard, de 50 000 francs. Plus 325 000 francs qui nous étaient nécessaires pour aujourd'hui, soit 375 000 francs de paquets de billets de 1000 attachés par un bracelet en caoutchouc. Oh, ma mémoire est fidèle, heureusement. » Le vieux caissier, sa clé en main, s'approcha du coffre. À ce moment, Martin Dumas s'avança. « Permettez-moi, fit-il, avant qu'on ne constate l'état du coffre-fort, de demander à M. Morrison combien de personnes avec lui et M. Castagnier, naturellement, connaissant le mot de la serrure. Nous deux seulement ? » ?»« Bien. Donc, si la serrure ne porte pas le mot, c'est qu'une main étrangère a touché à la porte, là seulement. » Poussé, fermé. En effet, voulez-vous, monsieur Morrison, vous assurer seulement si le mot est en place ou non ? Le caissier glissa sa clé dans la serrure. Aussitôt, il répondit : Non, le mot n'est pas placé, la gâchette est seulement poussée, sans arrêt. « Bien, alors la porte a été tout bonnement poussée. »« Oui. »« Maintenant, je vous prie, monsieur Morrison, fermez la serrure avec le mot, sans nous le dire. » Le vieillard fit jouer les lettres et dit « C'est fait. » Martin Dumas, qui s'était tourné pendant ce temps vers le chef de la sûreté pour ne pas voir le jeu du vieillard, revint à la caisse. Il examina une seconde le petit médaillon de cuivre contenant les lettres au secret avec son inséparable loupe, puis il dit « Oh, le mot du secret qui ouvre ce coffre est RAMI 099. » Le caissier sursauta « Mais c'est exact, mais comment avez-vous pu deviner ?» Martin Dumas sourit. Rien de plus facile. Le jeu de lettres est une garantie enfantine. Le tableau du coffre porte un carré de 10 chiffres de 1 à 0 et un carré de 10 lettres, 5 voyelles et 5 consonnes. Je gage que M. Castagnier changeait son mot tous les mois. C'est vrai? Alors nous sommes en septembre, 9e mois. Comme il n'y en a pas 90, c'est donc 09. Ah oui, parfaitement. Mais que Castagnier aurait pu employer tous les chiffres, toutes les lettres. Mais time is money, surtout pour les gens d'argent. 2 chiffres, 4 lettres suffisaient à son avis pour garder le secret et économiser du temps à l'ouverture et à la fermeture du coffre. Or, monsieur Castagnier se servait de 2 voyelles, 2 consonnes, A, I, R, M, toujours les mêmes, depuis fort longtemps. Oui, c'est juste. Et ces 4 lettres sont les seules qui soient luisantes, qui aient, en glissant, usé la plaque de cuivre. Les 4 lettres forment Irma, le nom de la fille bien-aimée et du banquier. J'ai trouvé Rami en opérant une simple pression sur la clé. Pas plus difficile !» Et reprenant alors son air impassible, Maslin lui marre, qui en d'autres temps eût été brûlé vif comme sorcier, dit tranquillement: Oh, vous pouvez, monsieur Morrison, maintenant constater l'absence des billets de banque, car ils n'y sont certainement plus. Monsieur Morrison ne mit pas longtemps à reconnaître le vol. Il en demeura atterré. Les billets de banque, les paquets de mille, si soigneusement attachés ensemble, avaient disparu totalement. « Oh, le vol et le mobile du crime !» s'exclamèrent les magistrats. « Il faut attribuer la mort de M. Castanier ni à une haine ni à une vengeance, mais uniquement au vol. » Martin Humain ne dit rien. On referma le coffre, puis les magistrats revinrent dans la salle d'attente. M. Morrison put se retirer. Il se rendit auprès de la famille de son patron, auprès de Madame Castanier, de la jeune fille. Pendant ce temps, les magistrats discutaient entre eux sur les constatations. « Mais, dit M. de Capestin, tout semble dès maintenant concordé à accuser l'homme brun, à tournure militaire, décoré, celui qui est venu en dernier, celui qui est sorti le dernier du bureau de M. Castanier. » Oh, prenez garde à la fameuse erreur judiciaire, fit observer Martin Dumas. C'est bien osé. Oh, je dis aussi que tout semble concorder à accabler cet homme. Je ne dis pas que je le tiens pour coupable. D'ailleurs, nous oublions en ce moment un point capital. Il existe une troisième porte dans le bureau de M. Castanier qui le relie aux appartements privés. Qui nous dit que ce n'est pas par là qu'est entré et sorti le voleur, l'assassin? Cette remarque produisit le plus grand effet. Le juge d'instruction et M. Ramard échangèrent un coup d'œil rapide comme pour se dire « Oh, Martin Dumas a encore raison !» Mais cela déplacerait tout à fait l'accusation et lui donnerait une gravité exceptionnelle. En effet, pour passer par cette porte, il faut venir des appartements de la famille Castanier. Et pour sortir de là, il faut traverser ces appartements. Or, cela indiquait que celui qui passait par là était un parent, un ami, un domestique de la maison, et non un des clients habituels de la banque. Le juge d'instruction, le chef de la sûreté, comprirent la gravité de la remarque de Martin Dumas. « Poursuivons notre enquête, » dit M. Le Cabestin. Il fit demander si Mlle Jeanne Castanier et la veuve du banquier pouvaient maintenant se prêter à l'interrogatoire. Sur une réponse affirmative, ils se rendirent à l'étage supérieur où se trouvaient les appartements privés de la famille Castanier. On mit à leur disposition un petit salon dans lequel déjà les attendaient Mademoiselle Jeanne et le marquis. M. Morrison se trouvait également à côté de la jeune fille qu'il avait vue grandir et qu'il chérissait profondément. Il se tenait là pour prêter son concours si besoin était, et pour soutenir et réconforter la jeune fille désolée. Il venait de lui apprendre en outre le malheur qui le frappait de son côté, le départ de sa fille Blanche. Et il pleurait sur toutes ces catastrophes qui, en une nuit, s'étaient abattues sur eux.